We must change almost everything in our current societies.
Nous devons changer quasiment toute l'organisation de nos sociétés. Plus votre empreinte carbone est grande, plus votre devoir moral est important. Plus votre plateforme est large, plus votre responsabilité est grande. Les adultes ne cessent de répéter, nous le devons à la jeunesse, il faut leur redonner espoir. Je ne veux pas de votre espoir. Je ne veux pas que vous espériez. Je veux que vous paniquiez. Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens chaque jour et que vous agissiez. Je veux que vous agissiez comme vous le feriez en pleine crise, comme si la maison était en feu, parce qu'elle l'est.
Les mots chocs de Greta Thunberg, militante suédoise pour le climat. Elle a seulement 16 ans et elle a fait une fois encore sensation. C'était le 25 janvier dernier au sommet de Davos. À l'occasion de la Nuit des idées qui se tiendra ce soir, rendez-vous aujourd'hui avec l'anthropologue Philippe Descola, invité à ouvrir le bal au Quai d'Orsay, en discussion avec l'artiste américain Thister Gates. Professeur au Collège de France, médaille d'or du CNRS, il a étudié la relation des Indiens d'Amazonie équatorienne avec leur environnement, travaillé et appelé à dépasser le dualisme nature-culture, plaidé pour un monde recomposé avec les non-humains, défendu un universalisme relatif, c'est-à-dire un universalisme des relations. Aujourd'hui, comment l'auteur de Par de la nature et culture se positionne-t-il face au présent? Thème de cette quatrième édition de la Nuit des idées. Quels enjeux contemporains n'attendent plus? On va lui poser la question. Bonjour Philippe Descola.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Mais d'abord, a-t-on raison de poser la question à un anthropologue? Quelle relation votre discipline entretient-elle avec le présent?
Alors, dans une conférence qui a été publiée l'année dernière, Lévi-Strauss, qu'on a eu pendant longtemps tendance à voir comme quelqu'un de plutôt conservateur, disait de l'ethnologie qu'elle était une science révolutionnaire. C'est une conférence qu'il avait donnée à la CGT en 1938, lors d'un passage à Paris, alors qu'il était sur le terrain au Brésil. Et il faisait valoir un argument que je crois n'importe quel anthropologue peut défendre, à savoir que faire un pas de côté par rapport à ses propres institutions, en observant et en vivant parmi des peuples dont les valeurs et les modes de vie diffèrent profondément des nôtres, incite à se situer par rapport à nos propres institutions et à exercer vis-à-vis de celles-ci une critique qui est peut-être plus profonde que celle qui est née simplement de l'insatisfaction, du sentiment de l'injustice, du fait que l'on observe tous les jours des situations d'inégalité insupportables, parce que elle nous met dans une position d'avoir à penser des alternatives possibles qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus amples et beaucoup plus significatives que celles que d'une simple critique politique immédiate.
Mais dans quelle temporalité vous travaillez, Philippe Descola? C'est vrai qu'on considère souvent que l'anthropologie est tournée vers les universaux, vers les permanences humaines, plus que vers l'histoire des sociétés. Est-ce que l'anthropologue est aussi celui qui voyage dans l'espace et dans le temps, en se confrontant notamment à des modes de vie qui sont parfois ancestraux, on les qualifie même d'archaïques, en étudiant le mode de vie de peuples qu'on dit aussi primitifs?
Alors c'est une question effectivement très compliquée parce que on a tendance spontanément, lorsque l'on se situe dans des mondes qui sont très loin du nôtre, à voir ces mondes situés du fait, au fond, d'une tendance spontanée des modernes à l'histoire et à l'évolution et à l'idée de progrès, à situer ces mondes sur une échelle temporelle. Mais c'est absurde parce que j'ai vécu quelques années dans une population qui était restée à l'écart du monde, qui avait lutté contre des envahisseurs pendant longtemps, mais qui avait eu une histoire que nous ne connaissons pas, qui avait changé au fil du temps. Simplement, ils n'avaient pas le sens de l'historicité, si je peux dire, c'est-à-dire qu'ils ne se représentaient pas leur devenir comme quelque chose assis sur un passé cumulé, portant un projet collectif. Et donc, de ce point de vue-là, il n'avait pas d'histoire au sens classique, autre chose que Lévi-Strauss avait souligné, c'est-à-dire, ils cherchaient, au fond, ils avaient probablement réussi, grâce à leurs institutions, à annuler la temporalité. En tout cas, une certaine forme de temporalité les projetant vers le futur. C'est changé maintenant, puisque j'y étais il n'y a pas très longtemps, et l'irruption de la modernité parmi ces populations les contraint précisément à se constituer en collectif luttant contre des envahisseurs, et de ce point de vue-là, ils ne peuvent plus demeurer, en somme, dans l'état de suspension qui était le leur.
Suspendre aussi cette temporalité, se retirer presque de ce monde, c'est le choix qu'a fait une tribu vieille de 60 000 ans, les Sentinelles en Inde, qui s'est complètement coupée du monde extérieur, et l'Inde a reconnu aussi ce choix, et cette tribu qui rejette assez violemment toute tentative d'intrusion sur leur territoire. Il y a eu une affaire en décembre dernier, un Américain qui a trouvé la mort en tentant de se rendre auprès de cette tribu. Écoutez.
Au beau milieu de l'océan Indien, l'archipel des Andamans. Sur l'une des 200 îles se cachent les Sentinelles, une population autochtone depuis 60 000 ans et très hostile au monde moderne. Depuis 1996, impossible d'approcher l'île de la tribu à moins de 5 km. Seule une poignée de scientifiques ont réussi à entrer en contact avec les Sentinelles, parmi eux, Madhu Mala Chattopadhyay.
Ce sont des étrangers pour nous. Personne ne les connaît. Vous savez, les gens ont tendance à être attirés par l'inconnu. S'ils se rendent sur l'île pour récupérer le corps, ils seront tués.
C'est ce qui est arrivé à John Shaw mi-novembre. À peine arrivé, cet Américain de 26 ans a été criblé de flèches. La Constitution indienne accorde des protections supplémentaires aux 750 tribus recensées dans le pays. Difficile dans ces conditions de qualifier ce crime.
D'un côté, cet homme a perdu la vie. Cependant, il connaissait la loi. Il l'a délibérément violée pour s'introduire parmi une tribu particulièrement vulnérable. On peut dire qu'ils ont fait preuve de légitime défense.
Face au présent, on entend à travers cet exemple, Philippe Descola, celui des tribus insulaires, des sentinelles en Inde, la difficulté qu'il y a aujourd'hui aussi à faire coexister différents mondes, différentes temporalités, différents choix de vie.
Les présents ne sont pas simultanés. L'exemple des sentinelles est intéressant. Il avait attiré mon attention il y a très longtemps, lorsque je m'apprêtais à partir sur le terrain en Amazonie. Dans le laboratoire de Lévi-Strauss, un ethnologue indien du bureau qui s'occupait précisément des sociétés tribales en Inde était venu pour présenter un film sur cette île. Et pour le gouvernement indien cherchait à l'époque un anthropologue pour faire une enquête ethnographique. Et donc il avait contacté des anthropologues français et aussi des anthropologues anglais. Donc c'était très tentant, mais en même temps c'était de la folie de tenter de faire une ethnographie chez des gens qui ne souhaitent pas recevoir d'étrangers. Alors il y a une situation qui est très connue pour les américanistes comme moi, à la frontière du Brésil et du Pérou. Il y a des sociétés qui sont en état d'isolement volontaire parce qu'elles ont fui les exactions du boom du caoutchouc, qui est une période épouvantable pour les Amérindiens en Amazonie, depuis la fin du 19e jusque dans les premières années du 20e siècle, où les barons du caoutchouc ont lancé des milices sur les villages indigènes pour enrôler de force les hommes, brûler les villages en cas de résistance, etc. Et donc la situation était tellement atroce que certaines populations ont décidé de fuir tout contact avec les Blancs après ce premier contact effrayant. Et se sont donc réfugiés dans une situation difficile d'ailleurs, puisqu'ils sont constamment en train de fuir à nouveau, vu l'avancée des fronts de colonisation. Et il est évidemment profondément immoral et politiquement absurde d'essayer de contacter et de faire du terrain dans des populations de ce type-là, qui sont protégées tant bien que mal maintenant par la FUNAI, mais on peut avoir de graves inquiétudes du fait des transformations politiques du Brésil et de la volonté de l'actuel président Bolsonaro de démanteler au fond la FUNAI, c'est-à-dire l'organisme qui protège les Amérindiens au Brésil et tout particulièrement les Amérindiens en état d'isolement volontaire. Donc c'est des présents effectivement qui sont pas du tout simultanés. On a l'impression de vivre dans un même monde, mais même avec des gens qui nous sont beaucoup plus proches. Le fait qu'on puisse communiquer par des moyens de communication modernes n'implique pas que nous avons les mêmes ni le même passé, ni les mêmes valeurs, ni les mêmes futurs, ni les mêmes ni la même le même souhait au fond de faire partie d'une humanité peut-être un peu abstraite. La seule chose qui nous relie au fond, c'est l'inquiétude plus ou moins affirmée et plus ou moins claire de ce que va devenir le système de la Terre dans le grand bouleversement de l'Anthropocène, c'est-à-dire du réchauffement climatique qui se profile.
Voilà ce choc, cette rencontre de souhaits aussi différents, d'un rapport particulier à nos vies, mais aussi à l'environnement. On peut l'entendre aussi à travers ce témoignage d'un chef des Munduruku, si je le prononce bien, au Brésil, autour de ce projet de construction. Alors c'était avant l'arrivée de Bolsonaro, un projet de construction d'une centrale hydraulique qui alimenterait des millions de Brésiliens en électricité, mais qui aurait aussi un coût irrattrapable pour la nature.
Nous sommes très tristes depuis que nous avons entendu parler du projet de barrage sur la rivière. Nous nous faisons beaucoup de soucis. Nous avons peur. Nous savons qu'un barrage tuerait notre rivière sacrée. Dieu a créé cette rivière pour nous. Et nous devons la protéger, tout comme notre qualité de vie. La construction d'un barrage signerait l'arrêt de mort de notre rivière. Ce barrage ouvrira la porte à plein d'autres problèmes et à de nouveaux projets. Tout commence avec un barrage. Viennent ensuite les exploitations minières, puis les voies ferrées. Ils voudront exploiter la bauxite et l'or. Et cela se fera toujours sur notre territoire indigène. Notre terre vivra une invasion, l'invasion de l'homme blanc.
Alors là, ce que dit ce chef Munduruku, Philippe Descola, ce n'est pas leur mode de vie qui est menacé. C'est pas tellement ça qu'il souligne. C'est que ce barrage va tuer le fleuve sacré. Et c'est aussi de cela qu'il s'agit.
Alors ce qui est intéressant dans le cas des luttes contre les barrages, en particulier dans la région du Xingu au Brésil, c'est qu'il a fédéré, bien au-delà des populations autochtones, des petits colons, y compris des propriétaires terriens d'exploitations agricoles plus importantes, à l'échelle d'un bassin versant, contre la destruction d'un milieu de vie qui, bien évidemment, d'une part, fournit un cadre pour la subsistance à des populations qui l'utilisent d'ailleurs de façon très différente, mais qui en même temps est un territoire au sein duquel ces populations se reconnaissent comme étant des occupants légitimes, amérindiens et pour certains non amérindiens. Or, ce que ça signifie, c'est que la lutte contre des grands projets d'aménagement de ce type-là, des barrages, des aéroports, pour évoquer un cas récent en France, des exploitations minières, solidifie des solidarités vis-à-vis d'un territoire qui peut être envisagé d'ailleurs de façon différente. Les Amérindiens de la région du Xingu ne conçoivent pas effectivement le fleuve Xingu comme les petits colons qui viennent du nord-est du Brésil, mais qui progressivement, du fait de cette solidarité, vont constituer un ensemble territorialement ancré dans la défense solidaire d'un morceau de nature et d'un morceau de culture ou d'un morceau de société. Et donc ces ensembles-là, Et c'est pour ça que l'exemple de Notre-Dame-des-Landes en France et, ou d'autres ZAD est intéressant. Sont des lieux qui vont condenser en quelque sorte des formes différentes de rapport à l'environnement, en ce sens que les gens se sentent, à juste titre d'ailleurs, dépendants et du milieu dans lequel ils vivent, non pas au sens de la dépendance, de l'adaptation qu'il y a à un milieu, ou du fait qu'on est dans un milieu hostile, qu'il faut pouvoir mettre en valeur, etc., mais dépendant des conditions de vie du milieu, parce qu'elles vous offrent précisément vos propres conditions d'existence. Et c'est pour ça que je défends des expériences de ce type-là, et je défends aussi des expériences comme celles qui ont été menées dans certains pays, en particulier la plus célèbre, c'est en Nouvelle-Zélande, avec l'autonomie juridique conférée à une rivière, la rivière Whanganui. Je défends cette idée que donner une personnalité juridique, donner des droits, au fond, à un milieu de vie, c'est aussi donner des droits aux gens qui l'occupent, mais non plus d'exploiter, de transformer ce milieu de vie, d'être dépendant de ce milieu de vie qui est la source des droits qu'ils exercent sur lui et sur le monde en général. Et donc c'est un changement complet, au fond, de la logique classique de l'appropriation qui veut que des humains, soit individuellement, soit collectivement, vont privatiser ou s'approprier des communs, des terres, des forêts, des pâtures, des rivières, etc., pour leur propre usage. Là, au contraire, l'instance qui s'approprie les choses, c'est un milieu de vie. Et elle s'approprie des humains de ce point de vue-là aussi.
Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes aujourd'hui encore prisonniers d'une conception naturaliste de ce rapport, de notre rapport, de notre relation avec la nature, de ce qui distingue humain et non-humain est très affirmé encore pour beaucoup d'entre nous. Alors c'est le cas ici en France, puisque vous évoquiez à demi-mot l'expérience de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ces questions peuvent se poser aussi dans la manière dont on lit ces événements. Mais c'est le cas aussi au Brésil avec le président Bolsonaro et ce qui peut le séparer des peuples autochtones dans cette perception. Vous avez travaillé, Philippe Descola, depuis très longtemps et c'est au cœur de votre grand livre « Par-delà nature et culture » sur cette distinction entre les quatre grands types de rapports des humains à leur environnement. C'est peut-être d'abord là-dessus qu'il faudrait revenir aujourd'hui pour pouvoir comprendre, nous adapter aux enjeux actuels qui sont urgents. Alors est-ce qu'il faut se dire qu'il faut complètement quitter cette conception naturaliste ou est-ce qu'il faut chercher à équilibrer, peut-être à prendre dans les autres conceptions, l'animisme, le totémisme, des choses et chercher à combiner ces différents regards?
La manière qu'on a d'habiter le monde ne se commande pas. Et par conséquent, c'est le fruit de l'éducation qui permet de transformer ces façons d'être présent au monde et en particulier... Une chose qui n'est pas peut-être suffisamment enseignée, c'est le fait que notre propre façon d'exploiter la nature et de considérer la nature comme un ensemble d'êtres et de relations extérieures aux humains est quelque chose de très particulier dans l'histoire du monde et quelque chose qui même est assez récent dans l'histoire de l'Europe. Et de ce point de vue-là, historiciser au fond notre façon actuelle de concevoir la Terre comme un système de ressources infinies est une bonne chose pour probablement arriver à nous transporter par l'esprit d'abord et par des pratiques aussi, éventuellement par des laboratoires d'expérimentation comme celui que vous évoquiez à l'instant, comme les ZAD, de nous transporter dans un autre monde où les relations de pillage, de saccage de la nature, d'inégalité que cela crée, ne serait plus aussi fortement accentué. Donc je pense que beaucoup à la vertu, peut-être c'est de l'irénisme, mais à la vertu de l'éducation et surtout à la vertu de la mise à distance. Et c'est pour ça, pour revenir à la première question que vous m'aviez posée, que le rôle de l'anthropologie, c'est aussi cela, c'est-à-dire au fond de faire varier les expériences collectives qui ont été menées, comme les historiens font ça aussi, mais disons que le champ des variations est peut-être plus grand parmi les sociétés que les anthropologues étudient, faire varier en somme les formes d'expérimentation collective que des sociétés ont inventées pour se relier entre humains et se relier à des non-humains. Et lorsque l'on examine cette immense diversité, on s'aperçoit que notre propre solution, non seulement elle est historiquement pas très profonde, elle n'a pas duré depuis très longtemps, elle est extrêmement dangereuse sur l'avenir du système Terre, mais en plus, elle n'est qu'une variation infime par rapport à une multitude d'autres qui sont tout aussi légitimes et tout aussi productive et tout aussi dispensatrice peut-être de bonheur ou de satisfaction. Et donc c'est pour ça que je milite depuis longtemps pour un enseignement plus systématique de l'anthropologie dès l'enseignement secondaire, parce qu'il me semble que l'apprentissage de la diversité, c'est pas simplement l'apprentissage de la diversité telle qu'on la rencontre ici, au coin de la rue, où on rencontre effectivement quotidiennement des gens qui viennent de régions très différentes du monde, mais qui, du fait des conditions de vie dans lesquelles ils sont insérés ici, ne sont pas perceptibles immédiatement comme représentant des alternatives à ces manières d'être au monde. Et l'anthropologie permet justement ce recul, cette distance, qui me paraît tout à fait nécessaire pour ne pas filer à toute vitesse vers un futur d'ailleurs de moins en moins facilement identifiable autrement que par les conséquences néfastes qu'il porte. Et surtout, au fond, dissiper cette idée que de l'inéluctable, que la trajectoire que nous avons commencée disons à partir du XVIIIe siècle avec l'émergence des sociétés modernes est inéluctable et que ça va continuer indéfiniment comme ça. Ça ne va pas continuer indéfiniment comme ça parce que nous allons faire face à une catastrophe de toute façon à moyen terme, mais ça ne va pas continuer non plus comme ça parce que les inégalités se creusent de façon telle qu'il n'est plus possible de les affronter sereinement, si je puis dire.
Alors, le flux d'images, l'abondance d'images, mais aussi l'accélération du temps à laquelle nous assistons aujourd'hui, Philippe Descola, l'instantanéité de l'information, notre hyper-connectivité, est-ce que tout ça, ça va encore compliquer la tâche ?
Non, pas. C'est oui et non. C'est-à-dire, ça complique la tâche dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, ça nous donne l'illusion que nos présents coïncident, qu'ils sont, du fait de la simultanéité des échanges, que ces présents sont identiques. Ça peut aussi faciliter les choses si la conscience, la prise de conscience d'une plus grande diversité culturelle, linguistique, des milieux de vie, des modes de vie, devient tout à coup beaucoup plus visible qu'elle ne l'était auparavant. C'est-à-dire si c'est quelque chose qui est de moins en moins marginal. C'est possible par les moyens de communication, mais avec le risque aussi, comme le tourisme de masse l'a montré, que l'on retrouve à l'autre bout du monde le genre de choses que l'on vient de quitter. C'est-à-dire, au fond, un mode de vie tout à fait singulier, consumériste, dans lequel la nature est un produit exotique à consommer, dans lequel des populations locales sont des produits exotiques également à consommer. Et il y a un équilibre très très difficile à trouver qui ne peut être fondé que sur l'exacerbation d'un sens critique, et c'est un sens critique, ce n'est pas spontané le sens critique. Le sens critique, il est à développer par l'éducation, pas simplement, comme je disais tout à l'heure, celle que l'école prodigue, mais aussi celle que les parents prodiguent.
C'est ce que vous faites en ce moment au Collège de France ?
C'est ce que j'essaye de faire comme enseignant depuis longtemps et professeur au Collège de France depuis une vingtaine d'années, oui.
Vous avez réorienté ces derniers mois, ces dernières années, un peu vos études aussi et vos recherches en travaillant notamment sur les différents régimes d'images. En quoi ça éclaire cette question d'un jour nouveau pour vous, Philippe Descola ?
Je me suis intéressé au régime d'images parce que au fond, une vision un peu classique et conventionnelle, qui est celle de l'histoire de l'art, a eu tendance, à considérer les images produites par des civilisations non européennes un peu à l'instar des images européennes, et donc on s'intéresse essentiellement à leur signification symbolique, à leurs conditions de fabrication, au rôle rituel qu'elles pouvaient exercer, sans se pencher au fond sur quelque chose de plus fondamental dans les images, qui est le fait que les images sont des agents de la vie sociale. Les images nous parlent, nous font agir. L'iconoclasme en est le meilleur exemple. Enfin, si on a envie de détruire une image, c'est qu'on lui concède une présence, une force d'action, une capacité d'agir sur vous inquiétante, et donc on la détruit pour cette raison. Et ça, cette façon de voir les images comme des agents de la vie sociale fait partie du projet que j'ai de multiplier au fond les agents de la vie sociale en y faisant entrer bien évidemment, à la suite de l'expérience ethnographique que j'ai eue en Amazonie, les non-humains, dans des sociétés dans lesquelles les animaux et les plantes sont des personnes, introduisent une beaucoup plus grande diversité d'agents de la vie sociale. Et les images font partie de ces nouveaux agents de la vie sociale, et c'est pour ça que je m'y intéresse. Mais au-delà de cela, j'évoquais l'histoire de l'art, je pense que un travail de l'anthropologue consiste non seulement à décrire des réalités très différentes de celles de sa propre société, mais et à s'en servir comme d'un levier critique, mais au-delà aussi à tenter de reformuler les concepts au moyen desquels nous saisissons le monde, y compris le nôtre, hein, de façon à leur donner une portée beaucoup plus grande. Au fond, la plupart des concepts que nous employons dans les sciences sociales, on parle de société, d'art, de religion, etc., sont des concepts qui sont nés d'une histoire très singulière, qui est l'histoire de l'Occident, et au moyen desquels nous essayons de décrire des réalités pour lesquelles ces concepts ne sont pas très utiles, puisqu'ils font référence à des réalités historiques qui sont aux antipodes de celles que nous essayons de décrire. Et donc, une partie du travail que j'essaye de mener depuis quelques années, c'est un travail de reformulation de ces concepts, de façon à non seulement avoir une vision, disons, moins coloniale, pourrait-on dire, de civilisations différentes de la nôtre, mais aussi d'avoir une vision moins tronquée de notre propre manière d'être, dans le monde, c'est-à-dire un peu plus dissocié de l'origine historique, au fond, de tous ces concepts que nous manipulons quotidiennement. Parce que c'est l'un des problèmes des sciences sociales, c'est que nous utilisons les mots de la tribu, et ces mots de la tribu nous ont été légués par une expérience historique singulière. Et donc il y a tout un travail énorme de reconceptualisation qui, à terme, devrait avoir aussi des effets politiques. Hein. C'est qu'en saisissant le monde avec des concepts différents, on est sur le point de transformer.
Philippe Descola, on entendait en ouverture de l'émission les mots forts de la militante suédoise, 16 ans seulement, Greta Thunberg. Elle disait « Je veux que vous paniquiez ».
Ah oui, c'est extraordinaire.
J'en ai marre de votre espoir pour les générations futures.
Pour moi, c'est un motif extraordinaire d'espoir. Cette jeune femme, et pas seulement elle d'ailleurs, mais elle est exemplaire. Je pense aux manifestations qui ont eu lieu en Belgique, dans lesquelles des dizaines de milliers de lycéens ont décidé de faire la grève pour le climat. Le fait que...
Ce qu'elle nous dit, c'est que les générations futures sont déjà là. Elles sont là, face au présent.
Et elles en ont conscience. Et donc, c'est pour des gens de ma génération, qui sont beaucoup plus âgés, c'est un réconfort extrême de voir qu'il y a un relais tout d'un coup qui s'est déclenché et que précisément on n'est pas seul face au présent.
Alors juste, vous avez évoqué la question juridique, on terminera là-dessus. 4 associations ont décidé, au nom de l'intérêt général, d'attaquer l'État français en justice pour qu'il respecte ses engagements. On a eu une COP21, 4 ans plus tard, on voit que les résultats sont quand même encore très mitigés. Cette pétition, signée par plus d'un million et demi de personnes aujourd'hui, a été appelée l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, c'est la question climatique. Vous l'avez signée, vous, Philippe Descola?
Non, je ne l'ai pas signée pour une bonne raison, c'est que je ne pense pas que l'État soit la solution. C'est-à-dire, au fond, attaquer l'État, c'est considérer que l'État est responsable d'un état de fait. Or, faire cela, c'est précisément contourner une façon de faire qui me paraît beaucoup plus intéressante. Ce sont toutes ces expériences que dont j'ai parlé, l'expérience zapatiste, l'expérience de la Rojava au Kurdistan, toutes ces expériences dans lesquelles des territoires se constituent en unités relativement autonomes parce que ils souhaitent transformer leur rapport au monde. Et de ce faisant, l'État va pas disparaître comme ça, mais ce faisant, il contourne au fond le problème de l'État. Donc se retourner vers l'État pour dire vous avez une responsabilité, évidemment que l'État a une responsabilité, mais vous avez une responsabilité, il faut agir, c'est au fond se défausser de sa responsabilité de citoyen, et c'est pour ça que cette jeune femme que vous évoquiez tout à l'heure a, me semble-t-il, une position tout à fait différente. Elle dit pas c'est à vous l'État de résoudre le problème, c'est à nous de nous en emparer pour faire changer les choses.
Ah, c'est pas à vous l'État de nous protéger aussi et de protéger simplement nos territoires, mais il faut aussi donner des droits, ce que vous évoquiez, aux écosystèmes, donner des droits aux entités non humaines et encourager des initiatives. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, que vous voyez comme un laboratoire plus qu'intéressant sur cette reconfiguration, cette manière de repenser les relations entre humains et non humains.
Tout à fait, oui, je pense que c'est une des expériences les plus intéressantes qui a été menée depuis la Commune de Paris.
Philippe Descola, merci beaucoup d'être passé autour de notre grande table. On vous retrouvera donc ce soir au Quai d'Orsay avec l'artiste américain Sister Gates, qui est par ailleurs urbaniste, et vous serez en discussion tous les deux. Merci aussi à toute l'équipe de la grande table qui a préparé et programmé cette émission, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la grande table culture, avec l'aide toujours très précieuse de Jeanne Copé et de Jordan Joseph. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placet avec Pascal Baudin. Je vous donne rendez-vous ce soir, si vous le souhaitez, à partir de 18h avec Hervé Gardette. Nous serons donc à la BNF à Paris.